Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une ce matin, la vigilance orange, vigilance rouge qui est levée. Hein. Orange désormais dans le Var et les Alpes-Maritimes. Bilan de ces intempéries dans le sud-est de la France. Bilan de disparus, des centaines de personnes évacuées en raison des crues importantes. Les autres titres, Laurence.
La bombe atomique, l'enfer sur Terre. Le pape François en visite à Nagasaki au Japon démonte le principe de dissuasion nucléaire. La semaine pour l'emploi des handicapés. Et cette semaine se termine aujourd'hui. Une situation toujours aussi compliquée en France.
Les invités à partir de 8h20. Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Et puis ensuite, à partir de 8h30, nous passerons un coup de fil au maire de Roquebrune-sur-Argence, l'une des communes justement du sud-est, l'une des communes sinistrées par la montée des eaux.
France Inter. Deux disparus, au moins deux blessés et des centaines de foyers inondés. Les secours ont été mobilisés, sont mobilisés sur tous les fronts depuis hier soir dans les Alpes-Maritimes et le Var. Des intempéries qui ont provoqué des crues très importantes. On fait le point tout de suite avec le colonel Frédéric Gosse, directeur adjoint du service départemental d'incendie et de secours du Var.
Nous avons travaillé toute la nuit pour effectuer encore des sauvetages. Soit au moyen de sauveteurs spécialisés, sapeurs-pompiers, qui sont spécialisés dans les sauvetages, ce qu'on appelle en eau vive. Et bien sûr, beaucoup de personnes ont été également secourues par les hélicoptères de la sécurité civile, qui ont fait un travail fantastique toute la nuit.
Combien d'interventions depuis hier ?
Alors sur 24 heures, nous totalisons plus de 800 interventions uniquement liées à cet épisode d'inondation et de crues violentes. Sur ces 800 interventions, on a globalement 500 sauvetages et mises en sécurité réalisés par les sapeurs-pompiers et 230 personnes qui ont été prises en charge directement par les hélicoptères, soit par hélitreuillage, soit les hélicoptères qui posaient juste un patin et qui récupéraient les gens dans des conditions extrêmement difficiles.
Le colonel Frédéric Gosse, directeur adjoint du service départemental d'incendie et de secours du Var, au micro de nos confrères de France Info. À peine la nuit tombée, les services municipaux de la ville de Grasse sont passés en état d'urgence. Ils ont ouvert un centre d'accueil pour héberger les différentes victimes de ces inondations. Le gymnase situé en plein cœur de la ville a permis d'offrir un toit à une cinquantaine de naufragés de la route qui étaient dans l'incapacité de regagner leur domicile. Mais le maire, Jérôme Viau, est dépité.
C'est un épisode orageux qui a fait très mal. Très très mal. À l'heure où je vous parle, je pense qu'on n'a pas la lecture totale de ce qu'il y a et ce qui se passe, mais on a des dégâts sur les routes, sur les berges, sur des murs de soutènement qui sont partis. Je pense que les sols sont très très chargés en eau et on a des murs de soutènement entiers qui ont lâché. On est bien sûr inquiet, on reste vigilant et on pense que l'épisode n'est pas terminé et qu'il reste encore quelques heures devant nous de difficultés à gérer.
Alors rappelons que la vigilance rouge est terminée pour toute la Côte d'Azur. Alerte orange aux crues toujours en cours pour les départements du Var, des Alpes-Maritimes, du Gard, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Le point, une météo complète hein, à la fin de ce journal avec Jean-Michel Golinski.
Exactement. À l'étranger, à présent, les manifestants pro-démocratie de Hong Kong veulent peser de tout leur poids dans les urnes.
Et la participation aux élections locales est forte ce dimanche matin. D'ordinaire, ce scrutin qui vise à choisir les membres des conseils de district sur des questions de vie quotidienne, comme la collecte des ordures ménagères, ne soulève pas l'enthousiasme. Et alors là, la situation est très différente. Cette fois-ci, la chef de l'exécutif de la ville de Hong Kong, Carrie Lam, fait face à un mouvement de contestation contre son gouvernement depuis près de 6 mois maintenant. Les conseils de district ont toujours été dominés par un bloc d'élus totalement aligné sur Pékin. On en reparle dans le journal de 8h. Le pape au Japon, à Nagasaki, ville japonaise martyre de la bombe atomique en 1945. François a dénoncé la logique de la dissuasion nucléaire censée garantir la paix dans le monde. La possession, dit-il, d'armes nucléaires est indéfendable. Bruce de Galzin.
François veut compter sur des leaders qui soient à la hauteur des circonstances, dit-il. Mais pas convaincu sans doute, le pape appelle aussi tous les individus à ne pas être indifférents face à la souffrance de millions d'hommes et de femmes qui continuent à interpeller notre conscience. Sous la pluie, devant le parc de la paix où la bombe atomique a explosé à Nagasaki, François a dénoncé l'hypocrisie.
L'argent dépensé et les fortunes gagnées dans la fabrication, la modernisation, l'entretien et la vente d'armes toujours plus destructrices sont un outrage continuel qui crie vers le ciel. Un monde en paix, libre des armes nucléaires et l'aspiration de millions d'hommes et de femmes partout dans le monde.
Et pour François, la dissuasion nucléaire est une fausse sécurité qui envenime les relations entre les peuples. La paix est incompatible avec la peur de la destruction réciproque et la menace d'anéantissement total. Et il s'inquiète du climat actuel de méfiance qui fait courir le risque, dit-il, d'un démantèlement du contrôle même des armes. Le pape rappelle que lui continuera avec une insistance persistante à soutenir tous les accords de désarmement. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et le pape François est attendu maintenant à Hiroshima où la bombe atomique a tué 78 000 personnes en août 45. Les Uruguayens votent ce dimanche pour choisir leur président dans ce pays riche d'Amérique du Sud où le candidat de centre droit est le favori face aux représentants du parti au pouvoir après 15 ans de présidence de gauche.
Retour à présent sur ces marches hier un peu partout en France pour dénoncer les violences faites aux femmes.
À Lyon, plus de 5 000 manifestants ont défilé dans le centre-ville et sous la pluie. 8000 selon les organisateurs, tous âges et tous sexes confondus. Un rassemblement pour faire bloc à l'avant-veille des annonces gouvernementales sur les violences conjugales. À Lyon, le reportage de Mathilde Imberti.
Des silhouettes blanches tombent une à une sur le revêtement rouge de la place Bellecour de Lyon. C'est un happening signé Filaction, association contre le sexisme à Lyon qui ouvre la manifestation. Hervé, l'un de ses membres.
Chaque femme en blanc représente une femme qui est victime d'un féminicide. Donc c'est énorme et malheureusement ça ne fait qu'augmenter.
La mobilisation est très loin d'être exclusivement féminine. Thibaut porte un parapluie violet, sa cousine Charlotte, quelques accessoires de la même couleur, celle des luttes féministes.
Enfin, je vois tous les jours le décompte des féminicides et au bout d'un moment ça devient juste... Ça déborde quoi en fait. Il y a un moment où c'est plus possible de voir ça. Et du coup, dès qu'il y a un événement, dès qu'il y a un rassemblement, je trouve ça essentiel d'y aller.
C'est un souci qu'il faut résoudre, il faut qu'on trouve la cause de ce problème et qu'on y travaille ensemble, hommes comme femmes.
En attendant le Grenelle lundi, Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de Femmes et militante de longue date, énumère ce qui lui semblerait faisable.
Pour leur protection, pas besoin d'attendre je ne sais quoi, téléphone de grand danger, le bracelet électronique pour avertir dès que le conjoint violent approche, et puis bien sûr au point de vue justice, que tout ce qu'il y a dans notre arsenal judiciaire soit vraiment appliqué. Et moi je commence à en avoir assez de me rassembler avec les mêmes discours et les mêmes paroles et j'attends des actes.
De Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Un mot à présent sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Elle s'achève aujourd'hui dimanche.
Environ 10 millions de Français souffrent d'un handicap, mais seulement une personne handicapée sur trois en âge de travailler a un emploi en France. Alors que la loi de 2005 oblige les entreprises à avoir dans leurs effectifs 6% de travailleurs handicapés. Illustration en Côte d'Or avec ce reportage de Bradley de Souza.
Son premier emploi, Alain, un Dijonnais qui souffre d'un handicap depuis sa naissance, s'en rappelle comme si c'était hier.
C'était compliqué parce que j'ai mis à peu près 2 ans pour avoir mon premier emploi en 1985. Pour des motifs médicaux ou de handicap, il y a des emplois qui m'ont été refusés.
C'était justifié ?
À mon avis, non, mais j'étais jeune à l'époque. Faire des recours, je connaissais pas.
Mais 30 ans après, pour lui, les mentalités des entreprises n'ont pas forcément évolué.
Ça génère de la peur de la part des employeurs. Savoir quel est son handicap. Est-ce qu'ils tombent malades plus souvent que les autres ? C'est un problème, je pense, qui est permanent.
Les entreprises, elles, dénoncent le manque de formation. Florence, la directrice départementale de l'Association des paralysés de France.
La principale interpellation que nous fait les entreprises, c'est justement nous dire, nous on serait prêts à prendre des travailleurs handicapés, mais on ne trouve pas des travailleurs handicapés compétents. Donc c'est là qu'effectivement la question de la formation est vachement importante. La mentalité évolue, alors après on a ces entreprises qui nous disent on ne trouve pas, mais s'ils trouvaient, je ne sais pas s'ils prendraient. Mais il faut vraiment une ouverture pour accueillir davantage de personnes handicapées.
En France, plus d'une personne handicapée sur trois en âge de travailler est au chômage.
Bradley de Souza.
C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Il faut le redire, hein, Jean-Michel Golinski, la situation s'améliore franchement aujourd'hui sur le sud-est.
Ah, tout à fait, Eric. Avec un sud-est qui va retrouver un temps pratiquement sec en seconde partie de journée. Pour le moment, 5 départements restent en vigilance orange. Le Puy-de-Dôme, le Gard et les Bouches-du-Rhône pour les crues. Le Var et les Alpes-Maritimes, à la fois pour les crues, pour les pluies qui sont tout de même en atténuation et pour le fort risque d'avalanche en montagne. Notez que la mer, quant à elle, s'est bien calmée. Sur le reste du pays, le soleil va percer plus facilement aujourd'hui de la haute Normandie à l'ouest du massif central. Mais ailleurs, les brouillards et les grisailles vont évoluer lentement. Et puis, près des Pyrénées, les averses seront assez fréquentes avant l'arrivée ce soir de pluie par la pointe ouest. Dans des températures à peu près de saison, avec une moyenne de 11 degrés dans la moitié nord, de 13 dans le sud-ouest et de 15 près de la Méditerranée.